c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Carnets entrouverts, les hauts largués, j'émissais l'horrible été. Je n'aime qu'un ciel léger. Pendant la canicule, je suis pareil aux arbres qui manquent d'eau et tout ce que j'écris me semble grillé. Eh bien oui, c'est l'été et ma foi, il a démarré avec de grosses chaleurs. Alors j'espère que mes dires ne vous sembleront pas grillés aujourd'hui. Et en tout cas, je suis ravie d'être avec vous et je vous souhaite le bonjour, bonne, très très bonne journée à chacun d'entre vous.
Jusqu'à ce que revienne l'été. Voilà ma saison préférée, l'été. Je peux enfin me réveiller, l'été. L'été rime avec liberté, l'été. Pour moi la vie peut commencer. Jusqu'à midi, je rêve d'une vie de castor sous le givre quand il dort. Je suis venue au mois de décembre, il faisait froid dans ma chambre. Janvier, peux-tu me pardonner, car je n'ai rien à te donner. L'été, voilà ma saison préférée. L'été, je peux enfin me
on a bien compris que Pauline Esther commence à revivre. Et oui, alors pour ma part, c'est tout le contraire. Mais néanmoins, avec des températures, on va dire, plus acceptables, je suis sortie de ma léthargie. Et puis, je suis ravie de passer cette heure avec vous, à savoir que je serai en compagnie de Jean-Louis Ouatté pour notre rubrique « Saletant sur la planète ». Dans laquelle nous parlerons des amphibiens. Et puis dans notre rubrique animalière, nous terminerons aujourd'hui notre volet alimentation avec les quelques troubles les plus fréquents dans les comportements alimentaires de nos chiens et de nos chats. Et puis l'été, eh bien, on est tenté de rester dehors plus longtemps, et je ne sais pas vous, mais moi j'aime particulièrement les spectacles son et lumière, et Stéphane Smag nous invitera à nous rendre à l'Étrême pour cette 5e édition Les Reflets du Temps, un voyage à travers les âges de nos ancêtres les Gaulois bien sûr, et ce jusqu'à la libération par les Alliés.
Radio Plus.
Radio Plus.
La radio plaisir. Radio Plus.
Radio Plus.
Le meilleur. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no te cante mucho nadie. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no te cante por de nadie. Que en la copa es mi sombrero, que en la copa es mi sombrero, te la dio la virgen de Juárez. Que en la copa es mi sombrero, que en la copa es mi sombrero. Coplas, no me vengas con tus coplas inventadas. No me vengas con tus coplas, no me vengas con tus coplas inventadas.
Et nana, sur son ballon rouge, fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Que calor la vida. Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vida. La chaisière s'est endormie, c'est midi au paradis. Guignol a pris son bâton, le manège tourne en rond. Dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rouge, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour.
Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vida.
Bonjour monsieur, le soleil ou l'amour vous ont fermé les yeux. Guignol a perdu la guerre, le préfet la chaisière. Au paradis vont s'aimer, il vaut mieux n'y pas trop penser.
Et nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vida.
Forêt, oui, quand il fait chaud, la sieste est la bienvenue, et c'est l'objet de notre enquête aujourd'hui. Non seulement dormir un peu pendant la journée procure un regain d'énergie, mais apporte aussi des bénéfices importants en termes cognitifs et en termes de santé. Et c'est la science qui le démontre. Le mépris à l'égard de la sieste réservée aux enfants, aux personnes âgées et aux fainéants est totalement injustifié. Et bien voilà une bonne nouvelle. Et une importante étude réalisée en Grèce par des chercheurs de l'université d'Athènes auprès de 23 681 personnes atteintes de maladies cardiaques et de cancers montre les bienfaits d'un sommeil de jour. Les personnes qui faisaient une sieste de 30 minutes au moins 3 fois par semaine avaient 37% moins de risque de mourir d'une défaillance cardiaque. Mais dites donc, moi je suppose, je trouve qu'elle devrait être obligatoire cette sieste.
C'est l'heure, c'est l'heure. Rien ne bouge dehors, rien ne bouge dedans. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure où les bourdons cessent de bourdonner. L'heure où les bougons cessent de bougonner. Qu'on soit en pyjama ou qu'on dorme tout nu, on serre contre soi sa panthère en peluche. Rien ne bouge dehors, rien ne bouge dedans, c'est que c'est l'heure, c'est l'heure. Rien ne bouge dehors, rien ne bouge dedans, même le malheur dort, ou alors il fait semblant. C'est l'heure où les amants rejouent à s'aimanter, l'heure où les enfants cessent d'enfantiller. Vient troubler le silence absolu que le ronron léger des panthères en peluche. Rien ne bouge dehors, rien ne bouge dedans, c'est que c'est l'heure, c'est l'heure. Rien ne bouge dehors, rien ne bouge dedans, même le malheur dort, ou alors il fait semblant. Puisqu'on ferme les on peut imaginer derrière les persiennes, sous le ciel qui prend feu, les grands champs d'oliviers, la chaleur diluvienne, le port de Trieste, les plaines du Far West, la poussière et le reste. Quand vient l'heure de la sieste, rien ne bouge dehors, rien ne bouge dedans, c'est l'heure, c'est l'heure. Rien marchands cessent de marchander, l'heure où les chenapans vous fichent la paix. Les foules disparaissent au long des avenues et les lits se remplissent de panthères en peluche. Rien ne bouge dehors, rien ne bouge dedans, c'est que c'est l'heure, c'est l'heure. Rien ne bouge dehors, rien ne
promenez nonchalant, arrêtez vos montres,
conjuguez tout à l'instant présent, arrêtez vos montres, arrêt total de ces petites minutes cannibales. Bonjour, salut, les heures passent, on les voit plus. Trouver l'éclat d'une sagesse parmi tant de
de pression, tant de stress. Salut, ça bouscule dans la cohue.
Le temps de voir grandir nos enfants. Arrêtez vos montres. Pour s'émouvoir, se toucher vraiment. Arrêtez vos montres.
Arrêt total de ces petites aiguilles infernales.
Pour savourer le temps qui nous reste.
Que debout, c'est déjà l'heure, réveillez-vous.
Sans ces petites minutes cannibales
qui rongent le temps et le moral,
la vie prendrait le rythme du cœur.
Après, Tété, c'était Morane pour ces quelques minutes cool. Et pour notre rubrique Saltan sur la planète, on retrouve Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature.
Saltan sur la planète.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, on est presque dans une suite logique aujourd'hui avec vous, Jean-Louis Ouatté, puisque la semaine dernière, nous avions axé notre dialogue sur les mares et leur richesse faunistique, qu'avec une incroyable diversité de libellules, d'oiseaux, mais aussi d'amphibiens. Et nous avions promis de consacrer un volet de cette rubrique à ceux qu'on appelait avant batraciens, car certains ne comprennent pas qu'on puisse être aussi vigilants quant à leur survie et déployer de l'énergie pour par exemple aider leur migration ou empêcher leur destruction à cause de certains projets de construction. Alors, pour tout vous avouer, Jean-Louis, j'ai même entendu dire bah ouais, chic des garnots là. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors autrefois,
moi je pourrais vous dire que lors d'une réunion en mairie de l'Étrême, ça remonte quand même aux années 95, ouais, entre 95 et 2000, sur le plan d'urbanisme, il y avait le responsable départemental des pompiers qui disait, ah bah vous sauvez les grenouilles, mais nous on sauve les gens.
Ah ben oui, voilà. Alors justement, autrefois assimilés au diable, crapaud, triton et salamandre étaient les amis des sorcières. Hein. Alors on se rend compte aujourd'hui à quel point ces animaux dénigrés sont importants dans nos écosystèmes. La destruction de leur milieu de vie, la pollution, sans oublier les mangeurs de grenouilles, mettent en danger leur existence. Alors nous devons les protéger. Alors Jean-Louis, on va peut-être rappeler ce qu'est un amphibien ou batracien.
Alors un amphibien, oui, avant c'était appelé batracien. Les amphibiens forment une classe des vertébrés. Alors tétrapode, c'est un mot. Tétrapode, c'est quatre membres. Hein. Donc à la différence des reptiles, des mammifères et des oiseaux qui ont acquis leur indépendance de l'eau du fait de la protection de l'embryon et du fœtus dans un sac imperméable, les amphibiens ont le plus souvent le besoin de déposer leurs œufs dans l'eau. Desquels va émerger une larve aquatique qui est appelée tétard. Bon, il existe quand même quelques exceptions. Et en plus de leur dépendance au milieu aquatique, les amphibiens disposent d'une peau nue. Donc, si les larves respirent à l'aide de branchies, les adultes recourent quant à eux à leurs poumons. Bon, à l'exception de quelques salamandres hein, qui respirent par la peau. Alors, il y a deux ordres principaux. Hein. Il y a ce qu'on appelle les anoures, donc anoures hein, avec un N, majoritaire et sans queue, donc composés notamment des grenouilles et des crapauds. Et puis, il y a ce qu'on appelle les urodèles, qui gardent leur queue. Alors, il y a les salamandres et les tritons. Alors, il faut savoir que les amphibiens comptent environ 7000 espèces découvertes, parmi lesquelles la grande majorité se trouve être des grenouilles.
Alors, justement, Jean-Louis, pourquoi joue-t-il un rôle important dans l'équilibre écologique de notre environnement? Et on dit même qu'il constitue un des meilleurs indicateurs de la biodiversité.
Oui, les amphibiens vont donc jouer un rôle important dans l'équilibre écologique de notre environnement. En se nourrissant d'insectes et de nombreux invertébrés, ils assurent la régulation des populations qui peuvent causer des dommages aux cultures lorsqu'ils sont en trop grand nombre. On pense aux limaces, aux coléoptères, aux vers, aux moustiques. C'est des vrais auxiliaires pour le jardinier. D'ailleurs, différents petits aménagements permettent d'accueillir les amphibiens très utiles au jardin en leur procurant un lieu de reproduction et puis un terrain de chasse. Bon, un tas de compost, de feuilles mortes, ça constitue un précieux garde-manger, mais aussi un lieu d'hivernation pour les amphibiens. Et puis, en plus du potager, une petite zone de prairie sauvage va être très, très appréciée pour la chasse. Alors, des lieux de refuge, hein, comme un tas de pierres, un petit muret ou un tas de bois qui peuvent être aménagés. Donc, les amphibiens pourront s'y cacher durant la journée, se protéger du soleil. Alors, pourquoi les protéger, hein? J'ai dit que, bon, ils contrôlent les populations d'insectes nuisibles. Ils réduisent la propagation de maladies, hein, telles que la malaria, en mangeant les vecteurs de ces maladies. Et puis, leur peau produit aussi, on le sait moins, des substances qui peuvent tuer microbes et virus. Et donc, ça offre des perspectives de découverte de nouveaux médicaments. Et leur peau étant hautement perméable, sont d'excellents indicateurs de la qualité environnementale. Il faut savoir que leur disparition ne précède que de peu celle d'autres espèces.
Alors, bien évidemment, comme nous le disions la semaine dernière, Jean-Louis, la situation des zones humides et des mares, et donc des amphibiens, s'est dégradée dès le 19e siècle, avec notamment le bouleversement du paysage agricole français, et par voie de conséquence, une régression très importante des effectifs.
Oui, puisque faut savoir que parmi toutes les espèces d'amphibiens à travers le monde, il y a entre 30 et 50% qui sont en danger de façon plus ou moins critique. Au moins 120 espèces sont déjà totalement disparues. On dit qu'il s'agit de l'extinction massive la plus importante depuis la disparition des dinosaures, c'est peu dire. Alors les causes de la disparition, la première des causes, c'est la perte et la dégradation des habitats. Ensuite, on peut parler de la pollution, hein, notamment les pesticides. En plus, les espèces qui sont introduites, qui sont prédatrices ou concurrentes, font beaucoup de dégâts. La collecte, qui n'est pas négligeable pour l'alimentation humaine. Le marché des nouveaux animaux de compagnie. Et puis aussi, le changement climatique. Hein. Selon une grande étude qui a été menée par 500 scientifiques à travers 60 pays, un tiers des amphibiens est menacé d'extinction. Alors avec leur peau très fine et leur incapacité à réguler leur température interne, ces animaux se montrent particulièrement sensibles aux changements climatiques. Donc sur les plus de 5000 espèces qui ont été observées, alors c'est des grenouilles, des crapauds, des salamandres, des tritons, plus de 30% sont menacés et plus de 120 sont disparus depuis 1980. Et ces disparitions ont en partie lieu dans des zones protégées, donc par exemple le parc national Yosemite aux États-Unis, le parc Ungela en Australie, et puis au Costa Rica, le parc la réserve de montagne Monteverde. Alors le fautif, c'est un champignon envahissant, hein, le nom latin Batrachocytrium dendrobatidis, hein, voilà. C'est un parasite des batraciens qui provoque une maladie infectieuse qui occasionne leur mort en bloquant les organes respiratoires. Donc il se serait développé à la faveur d'une élévation de température liée au réchauffement climatique. Donc on voit que le changement climatique a un impact non négligeable sur la faune et en particulier sur les amphibiens.
Donc, sauver ces amphibiens, c'est donc nécessaire. Et Jean-Louis, il n'est donc pas ridicule de protéger leurs voyages amoureux, de mettre en place des batracoducs ou des crapauducs ou alors de fermer une voie pendant quelques temps ou de réaliser des tunnels pour les aider à rejoindre les zones d'accouplement, bien sûr.
Oui, parce que les amphibiens occupent des biotopes spécifiques, hein, qui sont fragiles et qui peuvent être divisés par des routes. C'est un morcellement de leur lieu de vie qui les met en péril. Donc au printemps, pendant la saison des amours, ils migrent vers leur frayère, leur lieu de reproduction, et en automne, ils retournent vers la terre pour s'abriter et se préparer pour l'hiver. Bah, au cours de leur migration, les amphibiens traversent des routes parfois particulièrement fréquentées. Il y a des centaines d'entre eux qui sont tués, qui peuvent être tués en une seule nuit. Donc le résultat, c'est une constante, ils sont décimés, hein, une extermination des populations de batraciens dans les milieux naturels, et qui vont, ça va générer des déséquilibres majeurs de l'écosystème. Il faut savoir que c'est aussi un risque pour les automobilistes qui, lors de migrations massives, dévident leur trajectoire en essayant de les éviter. Donc c'est pas ridicule de mettre des crapauducs, des batracoducs. D'ailleurs, il y a certains pays qui ont des panneaux indicateurs pour indiquer le passage d'amphibiens. Je pense à la Suisse en particulier, où depuis déjà longtemps, eh bien, c'est signalé et c'est indiqué aux automobilistes de faire attention justement aux migrations d'amphibiens.
Alors Jean-Louis, il paraît que nos terris sont des super refuges à batraciens, c'est vrai ça ?
Oui, parce que les terris miniers apparaissent comme des milieux au climat, aux pentes, aux substrats bien particuliers, qui sont favorables à la présence de certaines espèces remarquables de reptiles et d'amphibiens. Alors d'origine régionale ou plus lointaine, par exemple le lézard des murailles, qui était originellement absent du territoire régional, y a opéré une remarquable colonisation. Il y a de nombreuses données qui concernent les différentes espèces d'amphibiens qui ont été observées sur les terris. Il s'agit par exemple d'espèces pionnières qui apprécient les espaces très minéraux, hein, ouverts et arides. Donc je pense à l'alite accoucheur, hein, et puis au pélodite ponctué. C'est deux espèces d'amphibiens qui sont caractéristiques des terris.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur fréquence grenouille ?
Alors, fréquence grenouille, c'est une opération annuelle de sensibilisation qui a été créée en 1995 par le réseau des conservatoires d'espaces naturels et qui est organisée maintenant conjointement avec les réserves naturelles de France depuis 2008. Donc ça se déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai, et c'est relayé justement par les conservatoires d'espaces naturels et les réserves naturelles. Donc au cours de cette manifestation, il y a des animations, des sorties terrain, diurnes, nocturnes, des aménagements de crapauducs justement, des conférences, des ateliers pédagogiques. Donc c'est pour inviter à découvrir les amphibiens, leur cycle de vie, les écosystèmes des zones humides et puis les menaces qui pèsent sur ces amphibiens.
Mais alors, pourquoi, enfin Jean-Louis, les amphibiens sont protégés quand même par une loi depuis 2007 ?
Oui, un arrêté du 19 novembre 2007 qui fixe la liste des amphibiens et des reptiles qui sont protégés sur l'ensemble des territoires. Et puis les modalités de protection. Savoir que cet arrêté a été complété par un arrêté du 15 septembre 2012. Donc on a une loi qui protège. Il faut savoir que par exemple le prélèvement de têtards est totalement interdit.
Alors malheureusement, je dirais, il y a des pays où les lois protectrices justement n'existent pas. Alors maintenant que vous me connaissez bien, Jean-Louis, vous ne serez pas étonné si je close ce chapitre avec les mangeurs de grenouilles.
Ah ben non, ça je suis pas étonné du tout.
En effet, c'est lamentablement dans nos traditions.
Votre patte, hein. Pas votre cuisse, mais
votre patte. Les pattes de grenouilles, mais pas mes cuisses. C'est lamentablement dans nos traditions culinaires, et pourtant cela engendre des déséquilibres naturels non négligeables, puisque l'élevage n'est pas rentable chez ces espèces et que les prélèvements sont toujours effectués dans la nature. Alors quand même, plus de 4000 tonnes de cuisses de grenouilles sont importées par la France chaque année, c'est énorme.
Oui, faut savoir qu'il y a une étude du Muséum d'Histoire Naturelle qui s'inquiète des conséquences de la consommation de cuisses de grenouilles d'importation qui menacent les espèces sauvages en Indonésie. Les espèces de grenouilles bon marché, vendues le plus souvent congelées dans les rayons des magasins de l'Hexagone, sont toutes des espèces tropicales. Alors c'est peu surprenant lorsqu'on sait que les espèces de grenouilles françaises menacées de disparition sont protégées depuis 1979. Donc pour la très grande majorité d'entre elles, les cuisses de grenouilles qui sont vendues en France sont importées d'Indonésie, où elles sont prélevées dans le milieu naturel. Chaque année, il y a plusieurs milliers de tonnes au lisier qui sont importées de ce pays vers l'Europe. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, ce que remarquent les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est que les espèces sont de plus en plus petites et la ressource est plus que menacée. Donc, tout simplement, il ne faut pas manger d'espèces sauvages et vérifier la provenance de ce que l'on mange, en privilégiant, si on veut absolument, des grenouilles d'élevage, qui sont en provenance de Turquie, de France, ou d'autres pays, mais des grenouilles d'élevage, bien entendu, qui sont un peu plus chères.
Mais de
si on veut manger des cuisses de grenouilles.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, manger des cuisses de grenouilles, bon, en plus, ça n'a pas de goût. Et en plus, c'est le beurre aillé qui fait toute la cuisse de grenouille. Voilà. Et en plus, c'est pas très bon pour la santé. Bon, voilà. Bref, j'arrête là, Jean-Louis. Merci en tout cas à vous. Et vous serez bien sûr avec moi le 3 juillet.
Tout à fait.
Merci Jean-Louis et très très bonne semaine à vous.
Bonne semaine, au revoir.
Au revoir.
Un garçon part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui dit en tremblant.
Un garçon part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui dit en tremblant.
Laisse-moi m'en aller et je te promets de réaliser trois de tes souhaits. Fais un vœu, mon bonhomme, car je peux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur. Tout surpris par ce langage, il lui dit je veux beaucoup d'or dans mes bagages, des habits soyeux.
Surpris par ce langage, il lui dit je veux beaucoup d'or dans mes bagages, des habits soyeux.
Mais au bout d'un mois, il revint la voir et lui demanda, donne-moi la gloire. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme, mais cela, mon bonhomme, n'est pas le vrai bonheur. De tous les puissants sur terre, il devint le roi, mais dans son cœur solitaire, il n'y avait pas de joie.
De tous les puissants sur terre, il devint le roi, mais dans son cœur solitaire, il n'y avait pas de joie.
Il revint un jour, triste et malheureux. Donne-moi l'amour, c'est mon dernier vœu. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme. Et cela, mon bonhomme, sera le vrai bonheur. Poussant une plainte étrange, la grenouille alors devant lui soudain se change en fille aux cheveux d'or. La main dans la main, ils s'en sont allés, et sur leur chemin, les oiseaux chantaient. Sois heureux, mon bonhomme, car ton vœu, mon bonhomme, pour toujours, mon bonhomme, t'a donné le bonheur.
Francis Lemarque, qui a obtenu le Grand Prix du disque pour ce titre, La Grenouille, c'était en 1956. Et c'est tellement bon de réécouter Francis Lemarque. Et bien voilà, nous sommes dans les temps, et même presque en retard, nous sommes dans les temps, comme disait La Grenouille, pour accueillir à présent Christine Defort de la SPA d'Artois.
Paul Léoteau disait: les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre, et je parle de toutes les bêtes.
Eh bien oui, nous allons clore aujourd'hui notre chapitre sur l'alimentation de notre animal de compagnie. Alors attention à ne pas le laisser grossir, avons-nous dit lors des émissions précédentes, précisant qu'une nourriture saine, bien équilibrée, reste un gage de bonne santé. Bonjour Christine.
Bonjour Martine et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, Christine, voyons un peu les troubles alimentaires du chien et du chat, parce que un animal qui mange trop ou à l'inverse plus du tout, ou alors qui vomit régulièrement, il y a de quoi inquiéter ses maîtres. En effet, les troubles alimentaires du chien ou du chat ne sont pas à prendre à la légère. Et en effet, alors boulimie, anorexie ou pica peuvent être dus à un problème comportemental, mais peuvent aussi être le symptôme d'une maladie. Alors un chien ou un chat qui mange tout le temps ou qui réclame sans arrêt, c'est peut-être de la boulimie ça, Christine ?
Oui, c'est peut-être de la boulimie. La boulimie, il faut savoir que c'est une sensation continuelle de faim intense, hein, comme chez nous toujours. Ça se rencontre le plus souvent dans les affections du système nerveux, les carences affectives, et là, ça entraîne la consommation d'une grande quantité de nourriture. Un animal qui mange trop et tout le temps peut être aussi gourmand, mais il peut souffrir de boulimie. Il existe un seuil pathologique appelé polyphagie qui n'est pas toujours facile à évaluer, effectivement, mais il faut alors consulter le vétérinaire car un animal boulimique le devient pour 10 différentes raisons. 40% d'entre elles sont d'ordre comportemental, l'animal est soumis à un stress, il s'ennuie, il a un manque d'affection, mais la boulimie peut aussi signaler un désordre physiologique comme un dysfonctionnement de la glande thyroïde, un trouble neuro-hormonal ou une mauvaise assimilation digestive. Et si la boulimie est associée à de la fatigue, une soif excessive, des problèmes urinaires, et là, eh bien, elle peut signaler un diabète, car l'animal n'assimile pas le glucose et cherche à manger pour gagner en énergie, Martine.
Alors justement, par contre, quelquefois notre chat ou notre chien a une baisse d'appétit et s'il ne mange plus, là, il faut absolument consulter le vétérinaire.
Oui, bien sûr. Si à l'inverse, il ne mange plus du tout, il vomit régulièrement, eh bien, il faut s'inquiéter. Et là, les troubles alimentaires ne sont pas à prendre à la légère et il faut bien entendu se rendre chez le vétérinaire qui à l'occasion fera une prise de sang pour contrôler l'urée, la créatinine, le diabète, enfin les constantes de l'animal.
Et puis justement, c'est pas toujours de l'anorexie, hein, ça peut être un trouble de la santé justement.
Oui, l'anorexie, c'est une diminution. L'anorexie, à l'inverse de la boulimie, c'est une diminution, absence de sensation de faim. Donc, qui peut être d'origine psychosomatique ou aussi symptôme de maladie grave. Chez le chien, on parle plus d'hyporexie que d'anorexie. Bon, même soumis, il faut savoir qu'un animal, hein, un chien, même soumis à une anxiété extrême, comme le décès de son maître ou l'abandon, eh bien, il ne va pas se laisser mourir de faim, puisque c'est pour lui, c'est vital. Donc, il peut quand même cesser de manger pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, et notamment s'il a de la fièvre ou une excitation sexuelle peut aussi entraîner une anorexie. Donc, la raison de l'anorexie peut être liée à un trouble émotionnel, que le chien soit victime du stress ou phobique. Et s'il s'agit d'un chiot âgé de 5 à 6 mois, eh bien, là, ça veut dire qu'il est temps pour vous, il veut peut-être vous dire qu'il faut changer sa nourriture actuelle. Autre hypothèse, si vous avez plusieurs chiens aussi à la maison, là, il faut surveiller parce qu'il y a peut-être d'autres chiens qui empêchent le chien d'aller à sa gamelle. Donc, si l'anorexie, l'hyporexie chez le chien est associée à d'autres symptômes comme des vomissements ou de la diarrhée, bien entendu, il faut consulter votre vétérinaire. De toute façon, d'une manière générale, Martine, le changement, que le chien soit boulimique ou anorexique, il faut consulter le vétérinaire. Parce que c'est qu'il y a, au bout de plusieurs jours, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez votre animal.
Bien sûr. Et signal d'alarme, hein, Christine, l'anorexie est très mal supportée chez le chat, contrairement au chien, on va dire.
Bien sûr, c'est un animal qui est très sensible, le chat, qui peut se montrer difficile face à la nourriture. On sait très bien, Martine, par expérience, que nos chats, si on leur donne trop souvent la même chose, ils vont bouder leur gamelle, donc il faut changer régulièrement leur alimentation. Mais si un chat dont l'appétit baisse ou qui cesse de s'alimenter, il ne le fait pas non plus simplement par esprit de contradiction ou par caprice. Les raisons qui pousse l'animal à se désintéresser de sa gamelle sont multiples et peuvent être divisées en deux catégories principales. Un changement alimentaire ou environnemental, ou aussi, et la deuxième raison, un symptôme pathologique. Dans les deux cas, il faut rester vigilant, car un chat qui ne mange plus, eh bien, met rapidement sa vie en danger, Martine.
Tout à fait. Et puis, Christine, il y a des chiens, on en revient aux chiens, il y a des chiens qui mangent n'importe quoi, hein.
Oui, Il y a des chiens qui mangent n'importe quoi et ça s'appelle le pica. Ça désigne un comportement qui est propre au chien, qui l'amène à manger donc n'importe quoi, y compris ce qui n'est pas comestible, comme de la terre, du papier, du plastique, enfin n'importe quoi. Donc il peut même arriver à lécher le sol et les murs. Deux bémols, d'une part, un chiot est comme un enfant, il met tout à sa bouche pour tester, et d'autre part, un chien qui mange de l'air pour se faire vomir, ensuite, veut tout simplement soulager une gastrite. La frustration, l'anxiété, l'ennui, une carence affective, mais aussi une réelle dépression peuvent déclencher ce qu'on appelle ce phénomène le pica. Mais la cause aussi peut être une maladie comme un parasite, une gastrite chronique, une pancréatite ou un inconfort digestif. Résultat, une fois de plus, allez consulter le vétérinaire.
Et puis, dans les picas, il y a aussi la coprophagie. Alors, on rappelle très, très vite, car on est pris par le temps, ce qu'est la coprophagie.
Eh bien, c'est le chien qui mange des excréments. Donc, si un chien qui avale des crottes, donc est victime aussi de troubles comportementaux ou bien de carences. Il va le manger les excréments des autres car il a repéré des résidus de nutriments. C'est un problème de digestibilité de sa nourriture actuelle qui peut être la source de la coprophagie, Martine, tout simplement.
Donc, de toute façon, en cas de désordre, on a bien compris, toujours consulter son vétérinaire qui vérifiera la santé de l'animal. Merci Christine et à la semaine prochaine.
Merci Martine.
Merci, bonne semaine.
On sait pas tout ça, mais j'entends ces patins. Content ou pas, tant pis, puis quand c'est fait. Côté tapis, ça tâche, faudra faire un câlin. Mais comme c'est du coco, c'est dur à détacher. Évitez la mémé, évitez la mémé, évitez la mémé. Des pépettes, t'as vu filouder. Et la fête est pris partout. Il n'a pas touché son lait. C'est Yuki qui a tout fini, comme toujours. Où est-ce qu'on s'est caché? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'il a préparé? La sole à Philo, Philo, viens manger. Ta sole refroidie, viens manger. Demi-tour tête à queue, tant qu'on peut décamper. Yuki prend tout ton temps, te coupe pas l'appétit. Quand on tasse à café, ça pourra pas passer. Quoique j'ai pas tout cassé, enfin ça c'est pas dit. Évitez la mémé, évitez la mémé, évitez la mémé. Des pépés, t'as vu filouder. Il veut se faire oublier. Et il a quitté son panier, mais c'est Yuki qui s'y est couché, comme toujours. Où est-ce qu'on est passé? Qu'est-ce qu'on a cassé? Qu'est-ce qu'il a préparé? La sole à Philo, Philo, viens manger. Ta sole refroidie, viens manger. Ta sole.
Gilbert Lafaye. C'était Gilbert Lafaye et le feu de l'artifice de l'émission. Eh bien, le voici avec Stéphane Smag. Et oui, cette année encore, l'association Les Trèmes en Lumière propose son grand spectacle Les Reflets du Temps, 5e édition de ce grand son et lumière avec les premières représentations qui se sont déroulées les 23 et 24 juin et les prochaines seront données les 30 et 1er juillet. Stéphane Smag, bonjour.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs de Radio Plus.
Alors cela se passera pour ces prochaines dates, comme pour les premières hein, d'ailleurs, et comme à chaque fois, au parc du Christ-Roi, place du 8 mai. Ce sera les 30 juin et 1er juillet. Alors je suppose, Stéphane, que vous voilà parfaitement rodé.
Ben, c'est vrai qu'avec la 5e édition des Reflets du Temps, on a acquis plus d'expérience et de maturité dans l'organisation et dans la préparation de ce spectacle, mais c'est vrai qu'à chaque nouvelle saison, le stress est toujours présent à l'approche du nouveau spectacle.
Alors, cela se passera donc, je l'ai dit, le 30 et 1er juillet. Alors, Stéphane Smag, vous êtes vice-présidente de l'association L'Étrême en Lumière. Alors, dites-moi, pourquoi une manifestation bisannuelle et pas chaque année ? Trop de préparation, beaucoup de travail, d'investissement ou tout simplement beaucoup de frais engagés ?
Bah, c'est un peu tout cela qui fait que le comité directeur de l'Étrême en Lumière a décidé d'organiser ce spectacle tous les deux ans. Vous savez, chacun d'entre nous sommes déjà impliqués dans d'autres associations d'Étrême. Ensuite, on préfère bien mûrir le prochain spectacle pour satisfaire notre public, notamment dans les renouvellements de tableaux et dans la mise en scène de ceux-ci.
Alors, justement, je suppose qu'au fil des années, le spectacle évolue. Alors, cette année, combien de figurants, combien de tableaux pendant 2 heures quand même? Il y a 2 heures à combler, je crois.
Oui, le spectacle évolue, bien sûr. Hein. 338 figurants cette année, ce qui sont à pied d'œuvre pour vous offrir en une vingtaine de tableaux vivants l'histoire de notre territoire en un peu plus de 2 heures, en effet.
Alors, on pourrait dire que c'est une belle page d'histoire, mais à mon sens, c'est le livre entier que vous mettez en scène.
Oui, nous retraçons en effet 20 siècles d'histoire, donc depuis les peuples celtes jusqu'à la libération, en passant par les Romains, les Vikings, les fresques paysannes, ainsi que les événements douloureux de notre histoire, tels que la Grande Guerre 39-45, marquée notamment par le massacre de 98 soldats anglais à Paradis, donc qui est un tableau phare pour nous du son et lumière, retracé avec beaucoup d'humilité et d'émotion. Quelques notes humoristiques aussi viennent également agrémenter nos tableaux pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Alors tout cela bien sûr mené avec brio par les metteurs en scène. Alors si vous nous parliez un petit peu d'eux, Stéphane.
Bah oui, jusqu'à présent on avait 2 metteurs en scène sur les derniers spectacles. Maintenant, il y avait Ivan Ménard et Patrice Blanchot. Bon, ce dernier a souhaité prendre un peu de recul, mais il fait toujours partie de l'association, bien sûr. Donc la mise en scène repose donc sur les épaules, en effet, de Ivan Ménard, qui, avec beaucoup de talent et d'imagination, nous a concocté ce nouveau spectacle.
Alors, justement, c'est un grand défi technique, un grand show, une énorme troupe d'amateurs, vous l'avez dit, 2 heures d'émotion, je suppose.
Oui,
ça fait rire, ça fait pleurer.
2 heures d'émotion, oui, où le spectateur en a plein les yeux. Je tiens surtout à mettre en avant notre équipe de couturières emmenée par Agnès Bouillet et ses dizaines de couturières qui ont préparé plus de 1950 costumes nécessaires à cette nouvelle édition. Nous avons également la commission décors accessoires où gravitent une vingtaine de personnes qui ont conçu de nombreux décors, tels un ponton pour le combat des mousquetaires, une église ainsi qu'une rue de l'Étrême, mais je vous ne dévoile pas tout.
C'est un véritable travail d'équipe, hein, finalement. Alors, son et lumière. Je suppose que pour vous et pour les metteurs en scène, l'un ne va pas sans l'autre et doivent être en accord parfait. Alors, effet sonore pour immerger complètement le spectateur dans l'univers représenté. Et bien sûr, une pyrotechnie déployant des techniques modernes pour mettre en valeur chacun des tableaux. Et puis, Stéphane Smag, chacun pourra découvrir ce monde merveilleux de l'artifice, bien sûr.
Oui, nous travaillons en étroite collaboration avec deux prestataires depuis maintenant quelques années, important et primordial dans la réalisation de ce spectacle, qui est Ok Sono, basé à Béthune pour la lumière et le son. Et au niveau de la pyrotechnique, on a Tony qui nous a concocté plein d'effets spéciaux et un magnifique feu d'artifice final.
Alors, Stéphane Smag, si vous le voulez bien, et parce que je suis certaine que vous avez donné l'envie à nos auditeurs de faire partie du public, peut-être pouvez-vous nous donner les renseignements utiles à l'inscription, à la logistique aussi, et puis à l'accueil.
Oui, bah, il nous reste encore des places, hein, pour le week-end prochain, vendredi et samedi, pour venir admirer notre spectacle Les Reflets du Temps à l'Étrême, à 10 km à peu près de Béthune, parc du Christ-Roi à partir de 22h30. La billetterie ouvrira à 20h30, c'est des emplacements libres au niveau des gradins. Vous pouvez également réserver sur notre site internet de l'Étrême en Lumière, dans l'onglet billetterie. Prix des places, 13€ adultes, 7€ pour les enfants de moins de 12 ans. Et nous avons des réductions également avec nos partenaires CGOS, CNAS, sous présentation de la carte.
Et alors, j'ai vu qu'on pouvait même y manger.
Oui, tout à fait. Il y a encore possibilité, mais il faut réserver avant demain soir pour les repas. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous restaurer avant le spectacle, il n'y a pas de souci, mais réservation avant demain soir.
Et puis il y a des parkings qui sont bien sûr réservés pour l'occasion.
Oui, tout à fait. Nous avons toute une équipe de logisticiens qui veille à vous amener proche du site dans de bonnes conditions, à la fois au niveau sécurité et proche du spectacle.
Eh bien voilà. Alors je peux vous dire qu'on y sera. On y sera, bien sûr. Merci à vous, Stéphane de Smag. Alors je rappelle que vous êtes vice-président de l'association L'Étrême en Lumière et bravo à toute votre association pour ce travail très professionnel et très fédérateur dans le bénévolat. Merci Stéphane.
Merci à vous, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Du haut de ma tour, quand sous mes yeux tout balance, là dans ce décor, tant de lumière insolente, au tout premier rang. Sur une scène insolite, brille un feu d'artifice dans cette nuit magique. Et du haut de ma tour, quand la ville valse la cadence, en technicolor, la foule et les bruits me hantent. Le monde me surprend, là-haut dans le ciel j'assiste, caché dans les coulisses, au spectacle magique. C'est le théâtre de la vie. Chacun joue un rôle, une comédie. Manège qui tourne et nous remplit d'amour, de drame et de fantaisie. Sur un tapis de nuages, derrière le rideau, au matin la vie reprend. La brume, les néons réveillent nos destinées dans les draps de satin, loin des rêves magiques. Du haut de ma tour, quand le temps est un mirage qui va crescendo, comme un film sur un écran. Superbe illusion, tu planes sur mes années, et j'attends le prochain passage de vie magique. C'est le théâtre de la vie. Chacun joue un rôle, une comédie. Manège qui tourne et nous remplit d'amour, de drame et de fantaisie.
Avec Sacha Distel que se referme le rideau de l'ère du temps. Alors profitez bien de cette matinée, passez-la de façon agréable ainsi que cette journée. Et puis bien sûr, je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez, c'est la dernière de ce mois de juin. Si vous avez envie, d'autre part, d'avoir de la musique plein la tête, eh bien c'est tout de suite après la petite page de publicité avec Kaléidoscope. Sinon, bye bye.